Oui. Ah, ça, c'est une question que vous ne poserez pas dans la deuxième partie, dans la partie qui vient. Oui, nous verrons ça tout à l'heure. Je m'aide. Bon. Oui, très rapidement, qu'on passe à la suite.
La relation entre frère à frère se réalise avant l'arrivée du Messie, est-ce que nous pouvons appeler cette époque messianique?
Écoutez, le jour où, si Dieu veut, la relation de frère à frère se réalise, c'est ça l'époque messianique.
Donc, c'est pas l'arrivée effective du Mashiach.
Écoutez. Dans votre question, vous m'avez posé une question sur l'époque messianique. Et après, vous me parlez de l'arrivée effective du Mashiach. C'est une autre question. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Effectivement, je comprends très bien que dans ce genre d'études, il y a une simultanéité des préoccupations. Mais essayons d'allier la forme et le contenu. Si vous me parlez d'une définition éventuelle du temps, du moment messianique, c'était votre première question. D'autre part, de la personne du Messie, ça fait une toute autre question. Est-ce que c'est clair? Bon. L'un n'empêche pas l'autre, d'ailleurs. Bien. S'il y a une autre question sur le sujet, et puis nous en voyons. Oui?
Oui, vous avez minimisé les problèmes de société devant les problèmes de fraternité, mais l'homme est donc certes le produit d'une culture, il est aussi produit d'une civilisation. Alors, les deux problèmes sont au même niveau. Problème de société, problème de fraternité. Et finalement, il faut étudier les deux pour pouvoir attaquer la fraternité.
Je suis tout à fait de votre avis. Attendez que je marque les termes. Vous avez dit société, civilisation et culture, oui. Ce que je voulais dire surtout, c'est que, nous allons le voir d'ailleurs dans la première analyse, dans la mesure où nous nous retenons du fait social, ou du fait culturel, ou du fait de civilisation, que son aspect impersonnel, et dans la mesure où la dignité de l'autrui comme personne est évacuée et mise en congé, alors effectivement, il y a toutes les causes de l'échec. Bien entendu, le fait social est réel. Le fait culturel, en tant qu'il est collectif, est réel, si j'ai bien entendu votre question. Mais la raison pour laquelle il ne trouve pas de solution de paix, c'est parce que d'abord, l'équation des rapports des individus entre eux n'est pas résolue. Je crois il ne s'agit pas pour moi du tout de nier l'importance et la réalité du fait social comme tel, et de privilégier la morale privée, si j'ose dire, si j'ai bien compris votre question, mais de mettre un ordre d'urgence. Si nous nous posons la question de savoir pourquoi les générosités engouffrées dans les tentatives de solution du fait social échouent, c'est toujours d'abord parce que, premièrement, il a manqué une générosité des rapports de personne à personne à l'échelle individuelle. Voilà ce que je voulais dire.
Oui, parce que vous parlez dans le cadre de la générosité, mais on pourrait envisager, mais parce que ce cadre de générosité reste dans le même système. Si vous voulez, est-ce que la politique peut résoudre la question de fraternité quant aux solutions à la
J'ai bien compris votre question. Et vous avez eu raison de reprendre mon exemple de générosité. Il n'était qu'un des exemples des vertus nécessaires. Et ce n'est pas le seul, mais je crois que là encore, il y a un ordre du genre, c'est la première. C'est d'abord la générosité qui doit être employée, et si elle était seule, elle échouerait. Et il faut aussi, ce qui est, disons, la catégorie fondamentale du fait politique, la rigueur de la justice. Bien entendu, vous avez raison, mais là encore, il ne s'agit que d'un ordre de priorité. Et au fond, c'est le vrai problème que vous posez. Comment se fait-il que ce divorce entre la morale et la politique soit parallèle à toute l'histoire? Semble-t-il, colle à l'histoire comme une tunique de Nessus, si j'ose dire. C'est Nessus ou Nestor?
Nessus.
Bon. Eh bien, c'est ça le véritable problème qui est, si vous voulez, la préoccupation principale des théologiens juifs, hein, la spécificité du monothéisme hébreu, c'est que tant qu'on n'aura pas dépasser cette antinomie entre la morale et la politique, l'histoire est perpétuellement l'histoire de Caïn et de Abel. Or, l'histoire des civilisations montre qu'en dehors d'Israël, partout, on s'est résigné à séparer radicalement et définitivement morale de politique. Le message biblique consiste dans l'espérance qu'il peut en être autrement. Et au fond, le mystère d'Israël, c'est cet entêtement à croire toutes ces choses-là qui, pour les positivistes, si vous voulez, sont des aberrations. Que la relation érotique et de tendresse peuvent aller de pair, que la politique et la morale peuvent aller de pair, tout cela, c'est le comment dire là. Je cherche un mot plus fort, mais espérance, ça suffit déjà. C'est l'espérance hébraïque. Et le fait que nous soyons encore vivants, c'est que ça signifie que cette espérance est increvable. Bien. Alors, si vous voulez, nous allons prendre le premier exemple que je voudrais relire avec le fil conducteur suivant. Le fait que la Torah veut nous faire comprendre qu'au niveau de l'être de nature, l'identité de Adam est vouée, semble-t-il, à l'impossibilité de résoudre la relation de fraternité. Adam ne peut que enfanter au niveau de l'engendrement naturel, de ce qui est connaturel à la nature de l'homme, que des frères jumeaux mais assassins l'un de l'autre. Alors nous allons partir de la donnée et suivre l'effort d'émergence d'une identité humaine qui aura dépassé cette impossibilité. Enfin, je voudrais m'exprimer plus clairement là-dessus. Il y a de l'humour même dans la lumière. C'est ceci, c'est que la Torah veut nous faire découvrir, veut nous empêcher de tomber dans la conscience tragique. En ce sens qu'elle veut nous faire découvrir que ces difficultés qu'il y a à résoudre ne sont pas impossibles à résoudre, qu'elles sont intentionnelles, qu'elles ont une finalité, qu'elles ont une normalité, que cela n'est pas, bien que dramatique, que cela n'est pas tragique, qu'il y a une issue possible, qu'il y a un conditionnement du point de départ de notre histoire qui fait que les données du problème sont ainsi. Et que par conséquent, il y a dans ce message, si vous voulez, quelque chose de... Je cherche un terme précis qui est à la fois consolant, rassurant, sécurisant, si vous voulez, fondamentalement. Que c'est un vrai problème, mais ce n'est qu'un problème, et non pas une fatalité. Voilà au fond comment on pourrait le dire. C'est qu'effectivement, dès que deux sujets sont en présence, il y a, non pas fatalement, dans le sens de la fatalité grecque, mais disons fatalement, dans le sens banal du terme, risque d'agressivité et de rivalité, qu'il faut le savoir, et que c'est une donnée de nature. Mais que précisément, l'effort de l'histoire est d'arriver à faire la preuve que l'autre peut ne pas être un assassin pour l'un et réciproque. Et le Midrash le montre à sa manière, dans le langage du Lashon HaKodesh, de la manière suivante. Caïn, après Victor Hugo, Caïn égale assassin. Là, il était dans la tombe. Et, bon. Mais Caïn, avant la faute, était innocent, n'était pas encore assassin. Et le mot de Caïn... Et le mot de Caïn est formé des lettres du mot de Naki, qui signifie innocent. Naki. Ça veut dire que Caïn, dans une autre transposition de lui-même, aurait pu être innocent, c'est-à-dire non assassin. Ça veut dire que cela n'est pas fatal dans le sens de la fatalité. Il y a eu échec, mais il n'y a pas eu fatalité. Est-ce que c'est clair? Et voilà de quoi il s'agit. Très rapidement. En lisant les versets du récit de la naissance, donc de ce couple des frères. Vous prendrez donc le chapitre 4 de la Genèse, au fond les trois premiers versets. Et l'homme connut Chava, sa femme, Vatahar, elle conçut, Vateled et Caïn, elle enfanta Caïn. Vatomer, et elle dit, la mère, elle dit, pour expliquer ce nom, Kaniti, j'ai acquis, Ish et Hachet. J'ai acquis un individu. Bon, il a la naissance du premier enfant. Et les termes employés par la Bible pour nommer cet enfant, qui va se nommer Caïn, c'est un terme qui signifie acquisition. C'est la conscience de soi comme être acquis. Ça veut dire, lorsque Caïn prend conscience de lui-même, il prend conscience de lui-même comme étant celui qui a été enfanté, le fils de la famille, si j'ose dire, celui qui est. C'est un Adam différent du premier en ce qu'il va avoir un frère. Le premier était tout seul. Mais c'est encore un Adam qui prend conscience de lui dans ce qu'on pourrait appeler en termes philosophiques l'expérience du solipsisme. L'expérience du moi plus que égocentriste, du moi exclusif d'autrui. C'est le commencement de la prise de conscience de soi exclusif de la possibilité que dans mon monde il y ait quelqu'un d'autre. Puisque c'est mon monde, moi étant le sujet. Et lui n'est pas nommé frère. C'est son frère qui va être nommé frère, si j'ose dire. Nous allons le lire en hébreu. Verset 2, va tosef la l'aider. Elle ajouta d'enfanter et achim, son frère. Ça veut dire que ce deuxième qui vient en plus, va tosef, elle ajouta, elle fit en plus. C'est l'idée de l'être en plus. C'est le deuxième qui est en plus, qui est frère, qui a l'identité de frère. Le premier, pas. Le premier est le fils, et c'est le deuxième qui est le frère. Abel, qui va être nommé Abel, est frère d'eux. Et voilà ce qui se passe, c'est que cette équation de la relation entre deux sujets, Caïn, qui est moi, et puis Abel, qui est l'autre, et parce qu'il est l'autre, a conscience de soi comme autre de l'un, et donc comme capable d'être frère, semble-t-il naturellement, c'est Abel qui est en danger, tant que Caïn, lui, n'est pas devenu frère. Caïn n'arrive pas à devenir frère, alors l'échec, Abel est supprimé. Voici donc l'équation de départ. Et chaque fois qu'il y a deux hommes en présence, enfin deux identités humaines en présence, qu'elles soient féminines ou masculines, peu importe, il y a ce risque-là. C'est les données du problème de l'histoire. Arriver à résoudre le problème de la création, le problème de l'altérité entre créateur et créature, comme vous l'avez signalé dans votre question, faire que l'un ne soit pas assassin de l'autre. Et là, c'est Dieu qui donne l'exemple. Bien que créateur, c'est-à-dire être absolu, être envahissant tout l'être, il laisse une place à l'autre, c'est-à-dire à la créature. Et c'est Dieu d'abord qui nous donne l'exemple de l'être frère. Mais en tant que Dieu, et non pas en tant que créature, et non pas en tant que créateur. Pardon, en tant que créateur, et non pas en tant que créature. La preuve que l'homme a à faire, c'est cette même preuve en tant que créature. Kedoshim tiyu ki kadoshami, si j'ose dire. Et voilà donc l'équation de départ. Et dès que Abel est tué, alors le terme de frère disparaît du récit biblique, comme nous l'avons vu jusqu'à Abraham. Et donc pour formuler ce premier principe, cela signifie donc que le problème de l'histoire, c'est d'arriver à faire que cette relation d'intersubjectivité qui n'est pas dans le même sens de l'un à l'autre arrive à retrouver un équilibre et à ce que la relation de fraternité puisse se construire comme solution à la rivalité des sujets. Et bien voilà, je reprends la récapitulation de tout à l'heure sur ce premier point d'appui. Toute l'histoire montre que tous les problèmes des hommes pourraient être résolus pratiquement, techniquement, mais qu'ils ne le sont pas en fait parce qu'il manque ce levier de la solution qui est la relation de fraternité. Nous allons essayer de prendre un exemple clair, enfin un exemple simple, je veux dire, les exemples ne sont jamais clairs. Et puis je vous demanderai vous-même d'ailleurs de proposer des exemples éclairants, le cas échéant. Bien, nous voyons que des peuples se font la guerre, parce qu'il y a des intérêts en jeu. Et toujours, c'est parce qu'il y a des intérêts en jeu, même quand c'est camouflé sous des idéaux. Je pense surtout à la dernière Grande Guerre mondiale. Eh bien, Et puis finalement, ils font la paix, comme on dit. Eh bien, ces mêmes intérêts ne diviseraient pas s'il pouvait y avoir une collaboration du partage des intérêts. C'est-à-dire si le problème de la relation autrui se posait en termes de fraternité. Les causes deviendraient des effets seconds, ça veut dire les causes déclenchantes de l'hostilité, comme on dit, deviendraient des problèmes mineurs qu'on confierait à des techniciens. Et c'est effectivement l'allure de ce quoi vers tant la civilisation contemporaine, de ce quoi tant vers... Non, de ce quoi...
À quoi tant, oui.
La civilisation contemporaine, dans sa tentative d'élargir la notion de nationalité jusqu'à l'universel. Et pourquoi ça échoue ? Bien, c'est parce que le projet est là, mais le levier manque encore, c'est-à-dire la relation de fraternité réelle. Tant qu'on est obligé d'être sur ses gardes et de se mesurer en termes de protectionniste de rivalité d'intérêt, c'est d'avance voué à l'échec. Je veux dire qu'il y a là, dans le récit biblique de l'histoire, une lecture du projet messianique qui commence dès l'origine. Il s'agit de construire l'ex-frère, alors tous les autres problèmes seront résolus. Dans le niveau auquel se formule ce récit de Caïn et Abel, on apprend que l'un a été sédentaire et l'autre nomade, que l'objet de la querelle était la répartition des biens de consommation, que finalement l'un dit à l'autre le sol où tu transhumes c'est le mien, et que l'autre dit mais la laine dont tu t'as dit c'est la mienne, et que finalement élément que je suivrai comme deuxième fil conducteur, il n'arrive pas à se parler. Nous allons le voir dans le verset suivant, qui est le verset dans le verset 8. Vayomer Caïn el Hevel Achiv, Vayhi biyotam basadeh, Vayakom Caïn el Hevel Achiv Vayargehu. Alors le texte, le verset, entreprend de nous dire que Caïn va peut-être parler à Abel, mais non. Vayomer Caïn el Hevel Achiv. Et Caïn dit à Abel son frère, il dit quoi ? Rien. Et Caïn dit rien à Abel son frère. Alors il arriva que lorsqu'ils étaient dans le champ, Caïn s'est dressé contre Abel son frère et l'a tué. Et vous voyez, littéralement en hébreu, ça veut dire la massacrer. Vayargehu. Et vous voyez que le texte, intentionnellement, nous dit Abel, son frère, deux fois dans le même verset. On n'aura jamais l'expression Caïn, son frère. C'est Abel, son frère. C'est-à-dire que ce mot ici n'est pas adjectif seulement. Il est substantif. C'est une essence, l'ex-frère. Et qui était en Abel. Mais c'est un ex-frère vulnérable, non protégé, éphémère. Et c'est le nom de Hevel, l'éphémère. Éphémère tant que c'est pas réciproque. Il faut que la relation de fraternité soit réciproque pour qu'elle soit fondée. Nous verrons plus tard que dans les tentatives de positives qui vont dans le sens de la réussite, alors on se parle plus. Jusqu'au moment où entre Joseph et ses frères, on peut se parler paix, on peut se dire paix. Et voilà au fond tout le filigrane de l'analyse. Et alors, première étape, c'est entre Abraham et Lot. Nous allons là aussi suivre le verset. C'est là que réapparaît le mot de frère. Voici ce qui se passe. De Ur-Kasdim, cette matrice d'où est originaire, comment on dit ? Originaire, l'identité de la famille d'Abraham. On apprend que s'élabore une capacité d'être frère et sœur. Et alors sortent deux hommes dans ce projet de fonder dans le pays de Canaan l'identité d'Israël. C'est Abraham et Lot. Et ils n'étaient pas frères dans le sens de l'état civil. On pourrait dire à la limite, comme les anthropologues, qu'ils faisaient partie de la même classe matrimoniale, donc on les appelle frères à ce niveau-là, mais ce n'est pas le sens qu'emploie le terme biblique. Pardon ? Et Abraham aime Lot, et on voit qu'il va le protéger jusqu'au bout. Et cependant, cette relation de fraternité entre Abraham et Lot échoue. Voici quel est le verset qui nous l'enseigne, et où d'ailleurs, pour la première fois, le mot de frère réapparaît. Verset 7 du chapitre 13 de la Genèse. Il arriva Allez, je prends d'abord au verset 6. Velonasa otam haaret la chevet yardam. Et la terre ne les a pas supportés à eux de résider ensemble. C'est un verset étonnant. Ils étaient deux personnes. On peut dire que c'était des chefs de tribu potentiels, donc des troupeaux, des serviteurs. Bon, enfin, deux petites peuplades, hein, avec toute la clientèle. Et la terre n'a pas pu les supporter ensemble. Voilà, la terre est vaste par rapport à deux familles. Et ce que veut dire ce verset, c'est ceci. Si on n'est pas ensemble, eh bien, quelque vaste que soit la terre ne peut pas supporter ensemble. Est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire? C'est ce Yardav qui éclaire le verset. Vous connaissez le verset que nous chantons dans les mouvements de jeunesse. Et inemato vumanaïv, sevetachim, gam yachad. Et c'est le gam yachad qui est important. Et la terre n'a pas pu les porter ensemble, ki haya rechusham ra, velo yachlou la shevet yachdav. Parce que, bien sûr, leurs possessions étaient nombreuses. Ils avaient beaucoup de troupeaux, disons. Et par conséquent, il fallait avoir deux endroits. Mais, et ajoute le verset, velo yachlou yashevet yachdav, mais eux ne pouvaient pas résider ensemble. Si eux avaient pu résider ensemble, la terre aurait trouvé la place de les faire se résider ensemble. Il y a un enseignement talmudique que vous connaissez et qui dit « Personne n'a dit à Jérusalem, je suis à l'étroit ». Vous connaissez ce principe ?« Lo amar adam, birushalayim, tsarli amakom ». Le Rav Kook a enseigné parce qu'il s'agit d'Yerushalayim. Jérusalem, c'est la ville de la paix. Alors, vous avez compris la suite. Personne ne dit « On est à l'étroit ». Tandis que là, ils étaient deux seuls. Et toute la terre entière, ils étaient à l'étroit. Parce qu'il n'y avait pas la paix. En réalité, il y a des crises de logement, je dois vous dire. Seulement, personne n'a dit, dit le Mahamar. Lohamar, enfin, personne ne dit. On est à l'étroit, mais on ne le dit pas. Vous comprenez la différence? Bon. Et alors, verset 8. Pardon, verset 7, Vayi rib ben roe mikne Abraham ou ben roe mikne Lot. Et il y eut une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Et on apprend donc que la querelle vient des bergers d'Abraham contre les bergers de Lot. Et quel est l'objet de cette querelle? Nous allons le voir immédiatement. Mais le verset ajoute, Vea Kenaani, Vea Perizi, Az Yoshev Baaret. Et le Cananéen et le Périséen, en fait, c'était les peuplades du pays, alors résidaient dans le pays. J'ouvrais une petite parenthèse d'exégèse biblique. Les exégètes dits bibliques disent que c'est une glose surajoutée par des glosateurs. Ben, qu'est-ce que vient faire le fait de... C'était le temps où le Cananéen et le Périséen étaient dans le pays. Enfin, le Midrash explique ça d'une façon beaucoup plus cohérente. C'est ceci. La Torah nous invite à comprendre déjà que si les bergers de Lot et d'Abraham avaient pu être en fraternité, alors le Cananéen, le Périséen qui était dans le pays n'aurait pas été un obstacle à l'histoire d'Israël, déjà depuis ce temps. C'est-à-dire déjà la difficulté que Israël aura, enfin, pendant tout ce temps qui va de la promesse au patriarche jusqu'au temps de la conquête au temps de Josué, la difficulté à ce que la promesse se réalise de l'héritage de la terre vient de ce que, dans tout ce temps de la recherche, de la construction de l'identité de fraternité, vient de ce qu'elle n'est pas encore résolue. Quel était l'objet de cette querelle? Le Midrash va nous le dire, mais verset 8 d'abord, « Vayomer Abraham et Lot, et Abraham dit à Lot, « Alna tehi meriba benyu benecha, qu'il n'y ait pas querelle entre moi et toi, donc la querelle vient de lui contre Lot, ou ben roaï ou ben roecha, entre mes bergers et tes bergers, et insistant sur le terme de berger, puisque le berger est celui qui fabrique la fraternité du troupeau. Ki anashim achim anachnu, car nous sommes des hommes frères. L'objet de cette querelle, eh bien, le Midrash explique de la manière suivante, c'est que il y a capacité d'être frère chez Lot, comme chez Abraham, mais chez Lot s'annonce déjà une caricature de l'identité frère. C'est, si vous voulez, un peu ce que la... Comment dirait-on ça en français ? Pas exactement la débauche, mais la luxure est à l'amour. Il y a une caricature de la fraternité, je ne sais pas comment la nommer en français, la pseudo-fraternité, par rapport à la fraternité. Il y a la catégorie formelle du pouvoir être frère chez Lot comme chez Abraham, mais chez Lot elle est impure, alors que c'est chez Abraham qu'elle va être sanctifiée, sainte. Par quoi ça se traduit ? Par le fait que les bergers de Lot faisaient paître leurs troupeaux, comme on dit, dans des champs qui ne leur appartenaient pas. Il y a catégorie de la fraternité, mais en dehors de la morale. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaye de dire ? Lot, c'est la caricature d'Abraham. Nous allons le voir sur un exemple peut-être plus frappant. Tout ce qui se passe dans l'histoire d'Abraham se passe dans l'histoire de Lot. Mais chez Lot, c'est caricatural. Se passe dans l'histoire d'Abraham la scène de l'enseignement de l'hospitalité. Elle se passe aussi chez Lot. Mais comment elle se passe chez Lot ? Vous le savez, il donne ses filles à manger, littéralement. À ses autres. Bon, pardon. C'est-à-dire, c'est la même catégorie, mais dans l'impureté. Voilà donc que le problème est repris à partir de ce moment-là. Et nous allons passer d'étape en étape à un progrès dans la tentative de la réussite. Mais là, il y a encore échec. Alors c'est là qu'Abraham dit à Lot, eh bien nous devons nous séparer. Si je vais à droite, tu iras à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. À droite, j'irai à gauche. Et cependant, Abraham va veiller, va protéger Lot jusqu'au bout. Vous savez très bien qu'Abraham mènera des guerres pour sauver Lot, qui avait été lui-même objet de guerre. Et en fin de compte, il plaidera jusqu'au bout pour que les approximations de juste qu'il pouvait y avoir dans Sodome et Gomorre elles-mêmes soient sauvées avant le désastre, et ces approximations de juste, c'était quand même la famille de Lot. C'est-à-dire, il y a là une espèce de tendresse, peut-être parfois exagérée, et qui nous a coûté cher, de la part d'Israël par rapport à ses propres avortés, à ses propres approximations, à ses propres... vous comprenez ce que je veux dire ? C'est comme si, je prends une image qui me vient à l'esprit, c'est comme si un peintre fidèle n'arrivait pas à détruire les brouillons une fois le tableau achevé. Bon, ben c'est la mémoire. Eh bien, voilà donc. Il y a un verset quand même dans ce texte qui nous indique pourquoi. Et finalement, Dieu accepte qu'Abraham essaye de sauver Lot. C'est le fait que Lot a fait tout ce qu'il a pu pour installer cette relation de fraternité à Sodome et Gomorre elle-même. Lorsque les gens de Sodome et Gomorre ont voulu prendre les anges visiteurs, enfin vous reverrez le texte, alors Lot leur dit « Alna ahai ta'asuzo »« Mes frères, ne faites pas cela. » Ils étaient frères dans le mal, mes frères. Alors puisque cette catégorie formelle de fraternité est quand même là, bien que le contenu soit impur, c'est quand même à sauver. Je ne sais pas si vous comprenez ce jeu. Mais dans tous les cas, effectivement, apparaît là un schéma extrêmement important. C'est que toutes les vertus ont leur pseudo-vertu, ont leur caricature. Et je crois que les tentations des Juifs sont précisément cela. Les tentations, par fausse reconnaissance, par diagnostic imparfait ou incomplet, de ces catégories de valeurs dont Israël a la familiarité, mais telle qu'elle se trouve dans l'impureté. Ce qui explique la tentation, c'est la forme de la valeur. Et on reste aveugle au fait que c'est la caricature. Parce que je rattache ça un peu, pour ceux d'entre vous qui ont assisté à la Sorbonne, à la première conférence de Mme Kriegel, sur certaines questions qui ont été posées. Et pour les autres, j'espère que ce n'est quand même pas hermétique non plus. Bien, je n'ai pas fini cette analyse. Et alors ensuite, l'histoire marche. Abraham va essayer de fabriquer un être frère plus loin. Alors il a deux enfants de deux femmes. C'est la première approche la plus timide de la possibilité de fraternité, les demi-frères, si vous voulez. Ben, ça ne marche pas. C'est Isaac et Ishmaël. Et là, vous reprendrez votre tête. Et puis ça va plus loin. Après Isaac, Isaac essaye de fabriquer la relation des deux frères jumeaux, Jacob et Ésaü, et ça échoue. Mais chaque fois, il y a un progrès qui passe quelque part. Et en fin de compte, à partir de Jacob, la relation de fraternité émerge dans sa réussite, dans le dialogue entre Joseph et ses frères. Et lorsque ce dialogue a réussi, lorsqu'ils peuvent se dire l'un à l'autre, j'allais dire allez en paix, mais soyez en paix, alors que l'histoire de la jeunesse s'achève et que l'identité d'Israël est enfin engendrée. Voilà pour cette deuxième partie de l'analyse. Vous avez la parole. Attendez, oui. Ah, attendez, mais je vais vous poser une question, parce que je crains d'être victime d'une fausse reconnaissance. Est-ce que vous habitez Israël ou la France?
Non, non, elle est exacte.
Hein?
C'est une reconnaissance.
Bon, parce que je me suis cru à Tel Aviv, comme ça. Bon. Et il n'a pas encore posé. Oui.
Le
problème de la fraternité. Ça relie un peu à ce que vous avez dit. Attendez, répétez votre question d'abord.
Est-ce que la non-fraternité se manifeste à propos de querelles d'intérêt? Et les querelles d'intérêt elles-mêmes créent une aliénation qui aggrave le problème et empêche la fraternité.
Oui.
Est-ce que le fait de supprimer cette aliénation, par exemple, par quelqu'un des marxistes en usage,
oui,
n'est pas un pas positif, non caricatural, de l'avancer vers la fraternité?
Oui.
D'autant plus que, justement, Jethro a été a apporté une contribution préfigurative, notamment dans les relations sociales. Et est-ce que, précisément, on ne pourrait pas attendre aujourd'hui un autre problème? Je me permets de faire une analogie, je ne sais pas si on peut dire ça, que, par exemple, les artistes aujourd'hui qui se réclament, qui veulent faire réussir de plus la révolution russe qui a échoué, ce sont les fautes, parce qu'il n'y a pas eu l'occasion de se manifester. Écoutez, je vais vous dire, il y a dans tous ces problèmes une difficulté supplémentaire dont nous n'avons pas encore parlé. C'est que dans l'identité humaine, à l'échelle même individuelle, chaque personne est sollicitée par un faisceau de valeurs, mais jamais à la même intensité. Et que finalement, il en résulte que les idées et les hommes ne sont pas toujours à la place où il faut. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et que pas n'importe quel idéal ne peut réussir avec pas n'importe quel homme. Il y a un terrain d'identité humaine qui est approprié à tel ou tel projet de valeur, ou pas. Il y a une logique de la relation de développement des différentes étapes de résolution du problème social, parallèlement au développement de l'identité humaine dans son sens culturel et spirituel le plus profond. Et il y a parfois des inadéquations entre des messages trop tôt délivrés, si j'ose dire, et inadéquats en ce temps-là aux sociétés qui s'emploient à les incarner et qui les font échouer. Et c'est peut-être ce qui est arrivé à l'aventure marxiste. En ce sens que cela explique la raison pour laquelle il y a eu une telle fascination pour les juifs par rapport à ce mouvement on s'est dit, enfin on parle de choses sérieuses. Enfin, on va essayer de supprimer dans les faits l'aliénation de telle sorte de pouvoir permettre à l'identité de fraternité de rompre le servicieux et de résoudre le problème. Je voudrais vous répondre en juif. Ça peut peut-être marcher pour tous, ça ne marche pas pour les juifs. Et c'est le témoignage que la civilisation marxiste, elle, porte. Par conséquent, il y a là quelque chose de très profond dont nous n'avons pas encore maintenant l'outillage pour faire l'analyse. Mais ça sera peut-être dans notre histoire de juifs une des plus grandes déceptions de nos relations avec ce que les nations ont fait des idéaux correspondants à ceux dont la Bible avait parlé. Ce sera une énorme déception. Tant que nous n'avions pas été, une fois de plus, victimes de cette approximation, nous pourrions nous dire, on peut encore espérer que ça s'arrange. Mais à partir du moment où c'est une fois de plus, depuis les sept grandes civilisations de l'histoire, dans le temps contemporain, et c'est le douloureux rapport entre le monde marxiste et Israël en général, eh bien, nous aurions pu dire, bon, on tient le coup jusqu'à ce que ça s'arrange peut-être. Mais maintenant, c'est déjà irréversible. Le témoignage d'échec a été porté, je vous reprends sous une autre forme, ce qui a été dit à la Sorbonne l'autre soir. Je ne sais pas comment vous dire ça, parce que je n'ai pas préparé de vocabulaire non dangereux. C'est tellement délicat, toutes ces choses-là. Voilà. Le critère de l'orthodoxie, de l'authenticité de l'être hébreu pour un juif est beaucoup plus dans l'évaluation des rapports de nation à nation que d'idéologie à idéologie. C'est quand les chrétiens ont quitté la nationalité juive qu'il y a eu schisme. Tant qu'il y avait encore qu'un problème théologique, c'était encore en suspens. De la même manière, pour le juif marxiste, tant que c'est encore idéologique, le judéo-marxiste, si vous voulez, tant que c'est encore idéologique, c'est encore en suspens. Mais à partir du moment où ça touche le destin national, alors c'est là que l'hérésie apparaît, si j'ose dire, si vous employez le terme d'hérésie. Mais tout ça est bien prématuré, cette histoire est en marche, et le tri qui se fait, personne n'a le droit d'en donner un critère d'identification. Mais en tout cas, ce sont les juifs soviétiques eux-mêmes qui ont déclenché un mouvement qui restera dans l'histoire d'Israël comme quelque chose de gigantesquement signifié dans ce qui se passe depuis quelques années dans la demande de visa de sortie. C'est un mouvement analogue à celui de la sortie d'Égypte. C'est une espèce d'identité mosaïque à la manière de Moïse qui apparaît, Shalach et Rami. Et ça se passe là et pas ailleurs. Alors, comme ce sont des événements contemporains, nous n'avons pas le droit d'évaluer, de juger, de définir, de dénommer, à peine, à tout le moins, de subodorer, de décrire, de vivre et de traverser. Parce que si nous étions capables de comprendre, nous serions affolés. Parce que c'est l'histoire de la Bible qui se fait de notre temps, dans d'autres catégories, sous d'autres formes extérieures, mais c'est la même. Par conséquent, il vaut mieux ne pas trop y penser, on risquerait d'avoir des cauchemars. Bien. Oui, pardon.
Vous avez dit hier, et je vais répéter aujourd'hui, que Joseph était salué dès sa naissance comme l'être qui allait être capable d'être frère. Eh bien, moi je crois que je demande des explications plus précises.
Dans les diagnostics.
Et notamment au niveau de faits précis du récit biblique. Tout d'abord, le début de Vaïchev. Que Joseph a 17 ans, c'est un frère, cette frère tout à fait insupportable.
Oui, oui.
Sa manière de raconter ses rêves.
Attendez, le début de Vaïchev, on va le reprendre, ça commence un peu plus haut. Mais vous allez voir ça tout de suite. Oui. Écoutez, vous savez. Oui, mais déjà pour celui-là. Écoutez, une première chose. La Torah ne nous cache pas qu'il est enfant par rapport aux autres enfants de Jacob qui, eux, sont adultes. Donc, il est enfant, ça veut dire, avec tout ce que ça comporte de naïveté, de l'idéalisme de l'adolescent, du non-diagnostic des nuances de la réalité, de l'entièreté des jugements, et par conséquent, vous avez dit insupportable, on pourrait dire le Midrash va un peu plus loin et dit Maasé né Harout. Il était, comment dire, est-ce qu'il y a un mot en français ? Né Harout. Enfant dans le sens de gamin, c'est gamin. Puéril, voilà. Puéril. Et c'est vraiment extraordinaire comme précision d'ailleurs. Mais je vais vous décrire ce que la Torah dit. Et voilà, en analysant deux versets. Le premier verset du chapitre 37, c'est juste le début de Vayeshev. Et le deuxième verset du chapitre 37. Premier verset. Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv be'eretz Knaan. Et Jacob s'est installé dans le pays des pérégrinations de son père, dans le pays de Canaan. C'est-à-dire dans le pays où son père était encore étranger, guerre, lui s'est installé. Ça veut dire qu'il décrète la fin de l'exil. Et nous savons qu'il avait décrété la fin de l'exil chez Laban quand Joseph est né. Quand sa femme, Rachel, lui a dit, c'est la vraie question, c'est comment elle a diagnostiqué, de ça je parlerai après. Pour vous dire, je ne sais pas. Mais comment, je ne sais pas. Mais comment diagnostiquer cela ? C'est vraiment un problème. Et